privés de transport en commun depuis ce matin. Élèves et travailleurs de Matadi ont eu du mal à joindre respectivement école et lieu de travail. Principale cause, les taximens tout type confondus ont carrément garé leur engin, exigeant une augmentation du prix de la course compte tenu de la hausse du prix du carburant. Information qui ouvre ce journal. Encore des morts dans la province de l'Ituri. Les terroristes ADF sont mis en cause. Ils ont tué 6 personnes dans les villages Masongo, Apabaya, Apakolu et dans la chefferie de Walese Vonkutu au sud du territoire d'Iromo. Nouvelle à suivre aussi dans cette édition. Dieudonné Kaboulo, coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH Kalemi, intervient en fin de ce journal. Il est notre invité, il dénonce les conditions carcérales à la prison centrale de Kalemi, lesquelles nécessitent coûte que coûte une amélioration. Gardez la fréquence de Radio Okapi pour en apprendre davantage sur l'actualité congolaise. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, la 77e Assemblée Générale de l'ONU s'ouvre ce lundi, d'abord avec un sommet sur l'éducation. Selon les Nations Unies, l'éducation est aujourd'hui en pleine tourmente. Partout dans le monde, l'éducation des plus de 90% des enfants a été interrompue par le Covid-19, ce qui constitue le bouleversement le plus important de l'histoire pour les systèmes éducatifs. Pour de nombreux étudiants, en particulier les filles et les jeunes femmes, cette rupture peut devenir permanente avec des conséquences potentielles sur leurs droits, l'égalité et le développement des générations futures. La pandémie a également fait ressortir des grandes disparités non seulement entre les pays, mais surtout entre différents groupes d'apprenants d'un même pays. D'autres détails sur ce sommet avec Alain Hirung, l'envoyé spécial de Radio Okapi à New York.
Le sommet sur la transformation de l'éducation est organisé en réponse à une crise mondiale de l'éducation portant sur des facteurs tels que l'équité, l'inclusion, la qualité et la pertinence. Souvent lente et invisible, cette crise a un impact dévastateur sur l'avenir des enfants et des jeunes de la planète, estime l'ONU. Le sommet sur la transformation de l'éducation est une initiative clé du programme commun lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en septembre 2021. Convoqué par le secrétaire général à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce sommet a pour objectif de placer l'éducation au premier rang de l'agenda politique mondial, de mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité et les solutions afin de combler les lacunes d'apprentissage liées à la pandémie et de semer les graines nécessaires à la transformation de l'éducation dans un monde qui évolue rapidement. Les systèmes éducatifs doivent s'adapter à l'évolution des compétences nécessaires dans le monde professionnel avec un apprentissage plus centré sur l'étudiant, plus connecté, plus dynamique, plus inclusif et plus collaboratif pour permettre à la créativité de s'épanouir. De New York, Alain Roumouchinge, Radio Okapi.
Revenons au pays pour reparler de cette situation dans la province du Congo central. Journée sans taxi et taxi-moto ce lundi 19 septembre dans la ville de Matadi. Les chauffeurs taxi ont décrété une grève pour demander l'augmentation du prix de la course. Leur demande fait suite à la hausse du prix de l'essence à la pompe et chez les revendeurs appelés Kadhafi qui passent des 2496 francs à 2800 ce matin. Nana Plourichimambo nous explique.
Les artères de la ville de Matadi sont désertes ce lundi. Les taxis ne circulent pas, eux-mêmes les taxis motos sont en comptés de bout de doigts. Les taximens ont formé plusieurs groupuscules dans différents coins de la ville où ils persécutent leurs collègues qui se sont désolidarisés d'eux. Plusieurs élèves ayant été surpris par ces mouvements de grève ont rebroussé chemin. Les travailleurs et les vendeurs n'ont pas pu rejoindre à temps leur lieu de service. La raison de ces mouvements de grève est consécutive à la hausse du prix de l'essence, comme l'affirme le président de l'association des motocyclistes du Congo central, Bamo Bamonekene.
Les chauffeurs ou les motocyclistes veulent que les prix de transport puissent être majorés à 1000 francs congolais. Raison, il y a l'augmentation du prix de l'essence. Hier, c'était à 2500 francs, mais aujourd'hui, c'est à 2700 francs congolais. À nos conducteurs de ne pas menacer les motocyclistes qui sont en train d'aider la population en attendant la solution qui viendra des autorités provinciales.
Pour l'heure, le ministre provincial des Transports et Plans, les responsables des associations des chauffeurs taxis et des motocyclistes sont en pourparlers pour trouver une solution à cette situation. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Province du Maniema, le ministre provincial de la Santé faisant intérim de celui de l'EPST, Kibongi Mutanga Junior, vient de lancer ce lundi à Kindu l'opération d'identification et codification des élèves ainsi que le recensement des écoles publiques et privées agréées. Cette opération, dit selon les organisateurs, a constitué un fichier fiable pour maîtriser les effectifs de tous les élèves. Ces opérations de 4 mois sont menées par le service de Sécopé en collaboration avec le service national d'identification des élèves, CERNI. Florence Kizalunga, reportage.
Selon le directeur provincial de Sékopé Maniema 1, c'est dans le souci de lutter contre les faux titres scolaires et autres pièces scolaires ainsi qu'au vagabondage scolaire des élèves que le ministre national de l'EPST vient de lancer ses opérations afin de maîtriser les statistiques de tous les élèves et écoles. Adamou Kamoulete.
Cette identification doit se faire dans des salles de classe et la présence physique des élèves est obligatoire. On doit tenir compte aussi des registres d'appel et les listes déclaratives qu'on trouve au niveau de chaque établissement. Et ça va aider à maîtriser le cursus normal des élèves. Quel que soit l'établissement scolaire, on doit avoir des traçabilités de son cursus normal.
L'inspecteur principal provincial, Diangenda Samoukina, fait savoir que cette première opération concerne d'abord les élèves réguliers.
Les autodidactes, c'est tout candidat âgé de n'importe quel maximum. Au moment où il n'a pas encore réussi à l'examen préliminaire, il n'est pas considéré comme autodidacte. Lorsqu'ils vont réussir à l'examen préliminaire, ils seront considérés comme autodidactes et ils seront aussi enregistrés.
L'autorité provinciale a, de son côté, obligé tous les responsables de l'EPST de prendre des dispositions idoines pour que ces opérations soient un succès dans la province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité dans la province du Sud Kivu, Elimu Nijibuya Usaï et à Usaïde. C'est le titre d'un projet mis en œuvre à Uvira par l'ONG locale ABFEC Action Congo SBEL. Il s'agit de l'organisation d'un camp de leadership pour les jeunes d'Uvira. Les participants, estimés à près de 100 jeunes filles comme garçons, sont formés sur différents thèmes dont le leadership, l'entrepreneuriat et le bénévolat et responsabilité civique. Une première série de formations de 6 jours s'est clôturée ce samedi 17 septembre. Fiston Ngoma Mayabala.
L'objectif de ces campements de jeunes est d'informer les filles et garçons sur le bénévolat et la responsabilité civique, susciter chez eux le sens de la culture du bénévolat et du patrimoine, passant les cires et formateurs de ces jeunes sur le leadership.
Ce projet Elimubora avec le club de leadership féminin est une pépinière pour l'avenir de la République démocratique du Congo, l'avenir de la ville d'Uvira, à pouvoir avoir des jeunes qui comprennent quelle est leur responsabilité citoyenne. Ils ont identifié des problèmes dans leur communauté et ils ont trouvé qu'il y a l'alcoolisme qui gêne la jeunesse. Il y a les cas de violences basées sur le genre au niveau des écoles. Ils ont aussi identifié des problèmes d'insalubrité dans les quartiers, dans les avenues. Et le problème qui s'est posé, c'était celui de savoir quel niveau de leadership, à leur âge, un enfant peut exercer dans son milieu, quel style de leadership un enfant peut appliquer pour arriver à influencer les décideurs à prendre des mesures qui vont dans le sens d'aider toute la communauté.
Quelques jeunes filles et garçons rencontrés sur le lieu de l'activité à l'économie générale ont expliqué les notions apprises et leur vision par rapport à cela. Le week-end, ils se sont rendus au camp Estagrico au quartier Nyamianda où ils ont exécuté quelques travaux communautaires de bénévolat pour lier la théorie à la pratique. D'Uvira Fiston Ngoma Mayabala, Radio Okapi.
Situation sécuritaire dans la partie est du pays. En Ituri, 6 personnes ont été tuées dimanche par des présumés ADF dans les localités de Masongo, Apamayaya, Apakolu et dans la chefferie de Walesevonkutu au sud du territoire d'Iromou. Selon plusieurs sources locales, ces rebelles accompagnés de leur supplétif Maïmaï Kiandenga ont mutilé les corps des victimes dont 2 femmes. Ce qui porte à 8 le nombre des civils tués en l'espace de 3 jours dans cette région après le meurtre d'un couple le vendredi dernier. Martial Kizabiamongo.
C'est depuis la mi-journée du dimanche qu'un groupe d'hommes armés identifiés aux rebelles des ADF appuyés par des éléments Maïmaï Kiandenga se sont introduits tout d'abord dans la localité d'Apamayaya, ensuite à Apakulu et à Masongo, pendant que plusieurs habitants revenaient de leur champ. Selon le CRDH, qui cite les rescapés, ces miliciens ont opéré à toute quiétude sans tirer de moindres coups de feu. 6 personnes, dont 2 femmes, ont été découpées à la machette et leurs organes impité. Plusieurs sources affirment que de nombreux habitants ont fui vers l'ouest d'Otomaber en direction de Oicha, au chef-lieu du territoire de Beni au nord Kivu. Le vendredi dernier, 2 autres civils, un homme et sa femme, ont été tués à Kazaro, toujours dans la même région par des ADF. La CRDH réitère son appel aux forces conjointes FARDC armées ougandaises à orienter leurs opérations à Madina, vers la colline de Moutadi, où l'ennemi a érigé son bastion. Les porte-parole de l'armée indique que les opérations militaires sont en cours dans la zone. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Nous restons dans la même province. Les maisons de commerce, écoles et marchés sont fermées depuis ce lundi matin à Mambasa Centre. C'est en application du mot d'ordre des deux jours de ville morte décrété par la société civile Force Vive et la nouvelle société civile de ce territoire. Selon leur déclaration à la presse, cet appel a été lancé pour interpeller le gouvernement à mettre fin aux exactions des rebelles ADF, notamment le meurtre, le pillage des biens et le déplacement des milliers d'habitants. Isaac Remoyope pour le reportage.
L'artère principale de Mambasa Centre où se trouvent la plupart des maisons de commerce et les marchés centraux est presque déserte. Les taximens et les véhicules en circulation sont rares. Les élèves qui inondent les rues chaque jour dans la matinée ne sont pas visibles. Selon la société civile locale, les deux jours de deuil sont décrétés pour honorer la mémoire des 63 personnes tuées par les rebelles des ADF depuis le mois d'août dernier dans les chiffrées de Babilaba Bombi et de Bakwanza. Plusieurs écoles sur l'axe commande à Mambasa, l'hôpital de Lolwa et 4 centres de santé sont fermés et plusieurs villages vidés de leurs habitants. Marie-Noël Anatone, coordonnatrice intérimaire de la société civile.
Voir 63 personnes mortes, ça nous a indignés. Les deux journées sont pour interpeller les autorités, pour agir en temps chaque fois qu'il y a des incursions et aussi, n'est-ce pas, nettoyer les zones qui sont plus touchées par ces incursions.
L'administrateur du territoire de Mambasa déplore cette démarche de la société civile. Il ajoute que la requête de cette structure n'est pas fondée car les opérations militaires se déroule dans son entité et les résultats sont palpables. Jean-Baptiste Matadi.
Secteur opérationnel Grand Nord, il y avait un rapport qui a fait le travail de profondeur et ils ont récupéré beaucoup de villages. C'est le travail que nous sommes en train de faire tous les jours ici.
Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'actualité nous amène dans le Nord Kivu. La situation humanitaire et sanitaire des déplacés de guerre des Rutshuru vivant sur les différents sites dans le Nyiragongo n'est fait que se dégrader et s'empirer. 8 décès déjà enregistrés parmi ces personnes déplacées en situation de vulnérabilité depuis leur arrivée en juin dernier. Ils sont actuellement plus de 2000 ménages répartis dans 5 sites parsemés dans le territoire des Nyiragongo. Les conditions humanitaires qui restent à désirer sont les causes majeures de ces décès dont la majorité sont des enfants de moins de 5 ans. La société civile de Nyiragongo lance un SOS. Le point avec vous, Tati Mapuku.
Le dernier cas est celui d'une fillette déplacée de 6 ans, décédée ce week-end sur le site de Kayembe après une courte maladie liée à la misère que sa famille traverse. Plus de 2000 déplacés cantonnés dans le territoire de Nyiragongo connaissent une situation très précaire et misérable, indique le président du site de Kayembe. Théo Moussekour indique qu'actuellement, toutes les 48 heures ne se passent sans un décès enregistré. Une dizaine de cas de maladies des mains sales sont aussi reportés. L'Organisation internationale Médecins sans frontières MSF en sigle, qui approvisionnait ses différents sites en eau potable, affirme être à la fin de son projet depuis 3 semaines maintenant, ce qui expose les déplacés aux différentes maladies. La société civile dit craindre et s'attendre au pire si rien n'est vite fait.
Le gouvernement congolais semble malheureusement abandonner différents déplacés entre les mains des humanitaires et dont aussi qui disent être à court de financement, et tout cela pose déjà un sérieux problème sur la survie des déplacés. Ces déplacés, ils étaient assistés en eau potable par l'ONG MSF qui actuellement dit être aussi à court de financement.
Signalons cependant que MSF continue à apporter son soutien en médicaments dans ces sites.
Au Nord Kivu, les FARDC annoncent l'arrestation hier dimanche dans la ville de Butembo du leader du groupe armé Mai Mai Kiandenga, supplétif des rebelles ADF. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola Ingrand Nord, Kambale Kupaku Jean-Baptiste alias Kiandenga a été arrêté avec 10 de ses combattants en pleine réunion de planification des opérations d'attaque contre la population civile de Butembo. Un mot de culture, l'artiste musicien congolais Jacob Jai, candidat numéro 12 représentant la ville de Kinshasa, a remporté dans la nuit du dimanche 18 à lundi 19 septembre la couronne de lauréat de la 7e édition du concours musical national Vodacom Best of the Best. 7 candidats sur les 19 retenus pour la finale, dont 3 de Kinshasa et 4 autres venant respectivement de Bukavu, Bunia, Kolwezi et Chikapa, ont presté chacun à son tour avant l'annonce des résultats. En plus du lauréat, Empire Joe Vance de Bukavu occupe la 2e marche du podium et Onésime Diambilay de Chikapa vient en 3e position. Le lauréat gagne une cagnotte et un contrat de production avec la maison Sony Music Afrique. Sony Music Afrique.
Actualité internationale.
L'organisation caritative espagnole Open Arms a secouru 372 personnes qui tentaient de traverser la Méditerranée centrale pour rejoindre l'Europe à bord d'embarcations en mauvais état lors des trois opérations menées sur une période de 24 heures. Le navire de sauvetage Open Arms Uno est resté en mer et cherche un port sûr pour les personnes secourues, dont certaines ont besoin de soins médicaux et beaucoup souffrent de déshydratation, a déclaré ainsi Laura Nalmouza, une porte-parole d'Open Arms. En Tunisie, le président du mouvement Ennahda était attendu lundi à l'unité nationale d'investigation dans les crimes terroristes. Rached Ghannouchi et son vice-président Ali Larraye doivent être entendus dans l'affaire des réseaux d'envoi et des Tunisiens pour le djihad dans les zones de conflit comme en Syrie. Un autre député du parti Habib Alouz a été arrêté la semaine dernière par l'unité antiterroriste des Sfax.
L'invité.
Le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH Kalemi, dénonce les conditions carcérales à la prison centrale de Kalemi. Il l'a dit vendredi dernier à Radio Kapi. Dieudonné Kaboulo est notre invité. Il s'entretient avec Paulin Mounanga.
Monsieur Dieudonné Kaboulo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de visiter la prison de Kalemi. Quel constat avez-vous pu faire?
Nous avons organisé une visite de la prison qui était conjointe. Il s'agissait de la CNDH, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et le ministère aussi des droits humains devrait participer à cette visite. Bon, malheureusement, le ministère était un peu empêché, mais nous sommes allés avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. On devrait rencontrer les autorités de la prison pour qu'ils ont dit que les conditions sont très mauvaises. Il dit non, puisque notre prison ici est conçue pour 250 personnes. Maintenant, je dois gérer 900 plus de personnes au lieu de 250. Vous voyez les conditions, comment les gens peuvent dormir, comment ils peuvent vivre, c'est compliqué. Ils disent qu'ils passent nuit à tour des rôles.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, vous êtes à 50 dans un local, 25 dorment et les autres debout. Après, je ne sais, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ceux qui dormaient se tiennent aussi debout. Et ceux-là qui étaient debout dorment. C'est lui-même qui nous confirme cette situation. Mettez-vous maintenant à la place de ces prisonniers qui ont droit de vivre comme il se doit et que c'est l'État qui doit prendre la responsabilité de ces gens-là. Est-ce qu'on peut aller en prison pour ne pas dormir, pour se tenir debout, attendre quelques heures pour dormir? Nous lui avons posé aussi la question concernant la santé. Il dit que nous n'avons pas de médicaments ici. Nous avons les infirmiers, nous avons les docteurs qui viennent nous visiter. Bon, il peut consulter, mais les médicaments, nous n'en avons pas. Donc, il y a carence de médicaments.
Et la nourriture?
La nourriture, la même chose. Il nous a même montré les dépôts. Il m'a dit, lui, il est nouvellement muté. Il a, je ne sais, 4 mois, 5 mois. Pour lui, depuis qu'il est là, le gouvernement provincial n'a pas encore approvisionné leurs dépôts. Donc, ils vivent en se débrouillant. D'ailleurs, il nous a dit que lui, il avait pris la charge d'aller s'endetter quelque part pour avoir quelques sacs de maïs et quelques sacs d'haricots pour subvenir aux besoins des prisonniers.
Et par rapport à cette situation, l'on craint qu'il y ait des morts.
Mais des morts, il y en a. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, nous avons enregistré 3 morts dans la prison. Successivement, 3 morts. Et ce qui est ahurissant aussi, c'est que ces 3 morts-là ont été enterrés dans de quelles conditions? Le corps s'est décomposé déjà. Donc, la personne qui meurt aujourd'hui, le corps est laissé à son triste sort. On est allé jeter ce corps dans la morgue, mais pas dans le frigo, mais sous le sol pendant une semaine. Et ils sont allés enterrer ce corps. Le corps s'est décomposé déjà. Si vous voulez vérifier, passez autour de l'hôpital général, ils vous diront comment ces corps-là commençaient à puer. Donc, c'est vraiment déplorable. Ce ne sont pas ces conditions-là que les prisonniers, quoi qu'ils sont prisonniers, peuvent être enterrés.
Et c'est une vieille prison qui date de l'époque coloniale. Ne pensez-vous pas qu'il faille construire une autre prison moderne qui remplit toutes les conditions carcérales?
Nous interpellons toujours le gouvernement national de songer à cela, puisqu'on ne peut pas continuer à vivre avec les prisonniers dans ces conditions-là, où soit l'État renonce à ses responsabilités. L'État ne manque pas les moyens, l'État est au-dessus de tout, il doit songer à construire les prisons, particulièrement la prison du Tanganyika, puisque de 250 à 900, et puis les arrestations sont presque journalières. Les 900 là, si vous y allez aujourd'hui, vous allez trouver il y a un nombre qui augmente chaque jour. Donc l'État doit songer à construire la prison centrale qui répond aux conditions carcérales.
Et vous, en tant que coordonnateur de la CNDH dans les Tanganyika, quelle initiative allez-vous prendre pour l'amélioration des conditions carcérales?
Dans notre mission, nous sommes conseillers du gouvernement en matière des droits de l'homme. Donc nous avons constaté et ce que nous pouvons nous faire, c'est d'interpeller les autorités locales, par exemple, d'abord.
Messieurs les coordonnateurs Dieudonné Kaboulo, je vous remercie.
À vous, fidèles auditeurs, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par Élisée Tchikoté, l'ensemble de toute la rédaction. Jean-Claude Thiel a assuré la prise des soins et la mise en onde de Billy Yvan Lotumba était devant ce micro pour la présentation. Au revoir.